Vox MH.
Moi j'aime bien. C'est
un studio, tu l'appelles le studio.
Il y a deux studios, ouais, celui de Natacha et le mien.
Eric M.
Donc ça c'est le studio, c'est pas Studio One, mais... Parce que le premier géographiquement il est à l'entrée et ça c'est le deuxième. Bah c'est l'endroit où je passe le plus de temps chez moi. Bah, c'est une pièce qui doit faire 18 mètres carrés, qui est très carré, justement, dans lequel il y a deux plans de travail. Il y a un plan de travail qui est plutôt de l'ordre de la logistique, on va dire. C'est là où je passe malgré tout le plus de temps, parce que les outils numériques qui étaient censés nous libérer d'un certain nombre de choses pour pouvoir faire de la musique de manière indépendante aujourd'hui, il y a une quantité de savoir-faire qui est assez impressionnante. Moi, je fais en plus mes pochettes de disques. La discothèque, c'est vraiment une... Pour moi, c'est important d'avoir ça ici. Parce qu'en fonction de... En fonction de certains travaux, et à un moment donné, il suffit qu'il y ait quelque chose qui me fasse penser à telle ou telle chose. J'ai plutôt tendance à aller directement dans la discothèque parce que sur le net, malgré tout, j'ai quand même beaucoup de choses là qu'on trouve pas sur le net. En fait, j'ai toujours acheté des disques et des vinyles. J'aime beaucoup les. J'ai pas un rapport fétichiste spécifique, mais c'est important pour moi d'acheter les œuvres. Et les disques ont souvent été pensés dans une globalité, ce qui est plus vraiment le cas aujourd'hui. Moi, je me suis toujours intéressé au rock, par exemple, ou à d'autres formes, ou que ce soit dans le hip-hop. Souvent, il y a un morceau qui claque, comme ça, qu'on peut entendre à la radio. Et puis, en fin de compte, quand on commence à chercher, on écoute le reste. En fin de compte, ça fonctionne sur un titre, ou alors c'est le même titre qui se décline sur l'ensemble de l'album. Donc ça, c'est un peu... C'est la technologie qui fait aussi que la musique, elle influence dans ce sens-là les... La musique punk rock, par exemple, elle est vraiment très courte parce qu'elle était vraiment pensée pour être sur des 45 tours au départ. Donc les formats ont toujours beaucoup agi sur la composition elle-même, quoi, en tout cas au XXe siècle. Complexe, quand même divisé par une porte qui est remplie de CD, qui est divisé en deux catégories. Il y a une catégorie qui est plutôt rock, hip-hop. En gros, il y a tous les disques de mon adolescence qui sont là. Et de l'autre côté, c'est plutôt ce qu'on appelle... il y a plutôt de la musique improvisée, libre. Il y a aussi pas mal de jazz, de musique contemporaine, musique électro-acoustique. Plus le stock de mes propres disques, qui sont stockés ici, quoi, que je donne ou que je vends pendant les concerts. En bas, il y a pas mal de bouquins sur la musique, essentiellement. Donc, il y a pas mal de partitions, il y a pas mal de bouquins théoriques, d'un côté. Et sur les autres étagères, c'est plutôt les livres avec lesquels je travaille pour telle ou telle pièce. Sur le camouflage, par exemple. Il y a comme référence, il y a Verilio, évidemment.
J'ai pas mal travaillé ces derniers temps autour du son, autour de la guerre.
Et le guide de la Provence mystérieuse.
Ouais, c'est par rapport à des sites plutôt... C'est plutôt théorique, ça n'a rien à voir avec la guerre.
Les contes d'Islande. Ça, c'était une pièce que j'ai faite il y a quelques années, la Drogamini.
Je me suis inspiré.
Enfin, des autochtones, des Amérindiens.
Du Canada et d'Amérique du Nord.
Il y a pas mal de cartes aussi, je collectionne. Dans une carte qui est absolument fantastique, qui est une carte d'Islande. Mais qu'on voit pas ici, on connaît pas ce type de carte, qui est complètement... C'est une carte qui traduit en fait toutes les caldeiras qu'on voit pas sous les glaciers.
Après, il y a des bouquins, là il y a un des séminaires de Lacan qui est là.
Autour des nœuds borroméens, dans un rapport à la musique, comment travailler ces formes-là.
Je trouvais que les nœuds correspondaient beaucoup aux lignes d'air de Fernand Deligny, les déplacements. J'ai pas mal travaillé ça pour Drum Machine avec pour les percussions de Strasbourg, sur ce type, comment passer d'un espace à un autre, qui était avec des périodicités instrumentales à des moments donnés, transformer les parcours de telle manière à ce que les corps s'épuisent aussi sur scène, mais sans forcément générer du son d'un point de vue instrumental, mais d'un point de vue physique, enfin ce genre de choses, quoi. Donc faire travailler les musiciens des moments donnés autour d'un objet et de fabriquer des boucles autour de ça. Ils le savaient pas forcément, mais j'ai un peu bossé là-dessus. Là, il y a une partie du stock. J'ai essayé de garder toutes les machines que j'ai utilisées depuis le début, au moins une unité. Moi, j'ai commencé à l'époque de l'analogique. Donc, ça va vraiment du Walkman, parce que j'ai commencé avec ça. Il y a un Revox, il y a une radio satellite aussi, qui me sert de synthétiseur, qui est tout en haut. Il y a un ensemble de cartes son, de petites tables de mixage. Les platines CD, les platines vinyle, des haut-parleurs. C'est le studio électroacoustique, quoi, des effets un peu à droite et à gauche, plutôt numérique. Puis dans des boîtes, il y a toute la période circuit bending. Là-dedans, il y a plein d'objets comme ça. Là, genre. Des fois, ça se met à sonner tout seul, mais ouais, ça, c'est tous les objets de. Bah, c'est typique, ça, c'est. Ça, c'est très John Cage, quoi. Voilà. Lui, il n'a pas été bendé, mais différents objets qui ont. Bon, qui se sont retrouvés à un moment donné dans telle ou telle pièce. Quoi. La boîte à meux, je ne l'ai jamais utilisée, mais.
C'est un standard.
Mais c'est un standard, donc c'était parti du truc.
Parce voilà. Que là, dans tout ton archivage de matériel, il y a une chouette empaillée aussi.
Oui, il y a pas mal de... En fait, j'ai un hapeau par variété d'oiseaux empaillés. Donc, quand j'étais gamin, j'ai grandi dans une auberge de jeunesse dans laquelle il y avait un taxidermiste qui venait assez souvent. Et c'était un personnage assez étrange. Et en fait, ça m'est resté. Et j'aime bien la présence des... Bon, j'ai pas mal de corbeaux, j'ai aussi des... Dans différentes pièces, mais aussi des... Ça, c'est un jet bleu du Canada. Il y a des gros pics, il y a un peu... Et je cherche les hapeaux qui correspondent à chaque oiseau, en fait. C'est la chouette culotte. Ce que je fais musicalement aujourd'hui, je l'ai un peu découvert quand j'étais objecteur de conscience. À l'époque, on devait faire l'armée. Les personnes qui ne voulaient pas le faire, ce qui était mon cas, on devait faire 2 ans dans le civil. Et j'en ai profité en fait pour apprendre le métier d'éclairagiste. Et il se trouvait que dans la région où je vivais, à Mulhouse, il y avait 2 festivals. Il y avait un festival de jazz qui était encore assez... qui était issu du free jazz, mais qui faisait beaucoup de jazz français encore à l'époque. Ce qui m'a glacé le sang, parce que j'avais vraiment du mal avec le jazz français, moi, toujours, hein, aujourd'hui. Hein. Mais que ce soit d'un point de vue de l'esthétique de la musique, mais même de ce que ça dégage politiquement. Et aussi, il y avait ce festival de danse qui s'appelait Eurodance, qui était absolument incroyable, où il y avait toute la danse des années 80, la danse française des années 80, qui était une explosion incroyable. Et effectivement, là, toute la musique qui était jouée était très très loin de ce que je connaissais, quoi. Donc le premier pas des musiques expérimentales, c'est vraiment arrivé par la danse. Pierre Berthet, avec qui j'ai travaillé des années après, qui est belge, qui vient de Liège, c'était vraiment lors d'un spectacle. Des années après, je l'ai croisé dans un festival, et puis on a décidé de travailler ensemble, mais j'avais vraiment la mémoire de ça. Et j'ai beaucoup travaillé avec la danse, avec Mathilde Monnier, que j'avais accueilli à l'époque quand j'étais éclairagiste, et qui m'a contacté un jour pour travailler sur... Elle avait utilisé un de mes disques qui s'appelait Zygosis sur un événement qui s'appelait le Potlatch au centre chorégraphique de Montpellier à l'époque. Et après, on a travaillé ensemble de 2001 à 2008. Et le rapport, du coup, là, par rapport à Colin Dune... Avec
What is Yours.
C'est pas une nouvelle pièce parce qu'on a commencé à travailler ensemble en 2015. À cette période-là, je travaillais beaucoup autour de la percussion. Donc le cycle avait commencé avec FNMNI qui faisait partie de Hans Sturz et de Neubotten, qui était le percussionniste, qui a fait beaucoup de musique de collage, qui est une personne qui m'a beaucoup influencé. Et puis, ou les percussions de Strasbourg, ou Emery Keno, par exemple. À un moment donné, je voulais la pulsion qui soit directement intégrée dans le corps. Par exemple, avec Colin, ce qui m'intéressait, c'était de... J'avais envie de travailler avec une personne qui vient plutôt du monde d'une danse qui est extrêmement codifiée et qui est folklorique, quoi. Ça s'appelle la step dance. En France, on appelle ça les claquettes, mais les claquettes, c'est vraiment une note... c'est une note définie, c'est plutôt Fred Astaire, c'est plutôt ça. La step dance, c'est quelque chose qui... moi, je l'ai découvert, hein. Je connaissais ça comme tout le monde, parce qu'on voit des affiches tous les ans de Lord of Dance, et Colin Dune faisait partie de... Pas de Lord of Dance, mais c'est un des grands danseurs de cette... Il pratique ça depuis l'âge de 4 ans ou 5 ans, je crois. Et donc, on a travaillé ensemble au CND. Et la première, on l'a fait à Vendeuve-les-Nancy. Donc là, on était en résidence aussi au GMEM. Et ben là, on joue la pièce telle qu'on l'a construite, justement, dans sa version finale, dans le dôme du GMEM, le module. What is Yours, c'est une pièce qui s'est construite de manière complètement empirique parce que moi, je ne connaissais pas son langage et lui ne connaissait pas le mien. Colin essaye de déconstruire, en tout cas d'interroger sa pratique à travers d'autres disciplines. Je l'ai entendu avec un ensemble de musique contemporaine. Je l'ai vu avec... Il y a une pièce qui a été faite avec du cinéma expérimental. Donc il y a une espèce de réminiscence. Il y a une mémoire aussi par rapport à des films historiques. Je me demande même s'il ne l'a pas fait avec un groupe de métal à un moment donné. Mais du coup, on s'est rencontrés sur le plateau. En fait, c'est un peu... c'est assez animal, hein, comme rencontre en général, ce genre de choses, parce que on est dans un plateau, ça se peut très vite se transformer en arène. Hein, et la step dance, c'est extrêmement physique. Alors, la différence entre les deux, c'est que Colin bouge essentiellement la partie inférieure du corps, c'est les jambes. Le torse est relativement droit. Contrairement au flamenco, les mains sont pas du tout, sont très peu en mouvement, ou alors elles ont des horizontalités, des verticalités, mais elles bougent très très peu. Ce qui est l'inverse de moi, où en jeu, je joue beaucoup sur c'est plutôt la partie haute qui bouge. Le bas est quand même très ancré dans le sol, et on a interrogé plein de choses, mais je me suis très vite rendu compte que Colin avait beaucoup de mal à danser sur autre chose que de la musique folklorique irlandaise. Donc il a fallu transformer ça. Comment je vais pouvoir travailler en fait du son avec Colin, en sachant qu'on a mis un microphone sous chacun de ses talons et que le dispositif de son de diffusion du son au départ, c'était un dispositif que j'ai développé au GMM avec Charles Bascou, enfin qu'il a d'abord développé sans moi, qui s'appelle l'holopad et que je voulais en fait déplacer le son dans l'espace d'un point de vue physique. Il suffit de le déplacer avec le doigt sur une tablette. C'était important pour moi parce qu'il y avait une notion de mémoire, c'est-à-dire je pouvais peut-être interroger en fait ces pulsions rythmiques et les déplacer d'un point à un autre sans forcément être dans une écoute passive. Ce qui est sorti, parce que ça a mis un moment, mais c'était, j'ai questionné le côté politique de cette danse-là. Et ça a un peu déclenché en fait le travail, et Colin, ça l'a placé beaucoup. Il a écrit un très beau texte justement sur la position du corps contraint en fait par le choix d'un certain nombre de personnes dans une chambre, comme il le dit, et qui définissent en fait que la danse et que les corps doivent être joués et traités de telle manière d'un point de vue de la représentation de la nation. Il y a quelque chose de très militaire dans cette danse-là. La pièce est développée essentiellement autour de ces questions-là. Après, j'ai pas pu m'empêcher d'amener du Beckett dans cette histoire. Il y a un passage qui est autour de Do It, de cette fameuse pièce avec la bouche. Mais tout ça est travaillé en atelier. J'ai voulu garder le côté atelier, en fait. Donc c'est très très brut ce qui se passe sur le plateau et tout le rapport à la vidéo, parce qu'on l'utilise à deux moments. La chorégraphie en soi, la danse en soi, c'est vraiment Colin qui, parce que je peux pas l'orienter, le diriger là-dessus, j'ai aucun code. Mais par exemple, il a pu moi j'aime bien passer beaucoup de temps avec les gens à discuter, à rentrer vraiment dans l'espace mental, dans l'univers de la personne. Et il me montrait par exemple en fait comment on enseignait la danse aux enfants. Donc c'est quelque chose qui se passe avec les doigts. Donc on apprend, donc c'est deux doigts qui sautent les uns au-dessus des autres, et puis ils apprennent les rythmiques, tac, tatic, tatac, tatac, tatic, tatac, 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 et puis toutes les parties où ils sont en l'air, où ils font du ballet, enfin comme dans les ballets, quoi. Ils finissent par retomber, tout ça c'est pensé, ils apprennent en fait ces formules-là. Donc ça c'est quelque chose que j'ai voulu absolument avoir dans la pièce, et qu'on a collé en fait avec en vidéo. Donc on le voit vraiment en train de faire ça sur une planche, sur un tabouret qui est amplifié avec un piezo, et on a cette énorme main qui est en train de danser, mais c'est quelque, et puis on l'entend lui chanter, parce que c'est vraiment ce qu'on lui a transmis. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi, d'avoir ces éléments-là, comment on transmet en fait une forme traditionnelle au niveau du vocabulaire. Enfin, il est très simple, c'est qu'est-ce qu'il dit nouveau. J'ai enregistré en fait ces mots là dans un sampler, et die, c'est pas die, c'est pas mourir, c'est die down. Et en fait je crois qu'il y en a un, c'est un coup de talon, et l'autre c'est plutôt un coup de l'avant du pied. Et donc il fait die, donc dadang, 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 dadang. Enfin, il commence à, etc. Il commence à moduler autour de ça. Et on a des conversations en fait. J'ai enregistré ces sons-là, mais je les joue de manière très répétitive, comme de la musique répétitive, minimale, en créant des déphasages et en même temps en provoquant le corps. Die, dum, 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 die, diddle, die, dum, die, diddle, die, dum, die, diddle, die, dum, die, diddle, die, dum, die. Le son vient quand même de cet endroit-là. Donc, au-delà du fait de l'amplifier, ce qui se fait quand même beaucoup, amplifier les plateaux, etc., c'était à un moment donné qu'il puisse enlever ses chaussures, quoi, qu'il puisse se libérer de ça. Qui finit par utiliser comme téléphone à un moment donné, en fait. Il finit par discuter avec lui-même. Donc, il a vraiment une forme de corps qui est assez sculpturale, d'une certaine manière. Il fabrique un nœud avec lui-même. Et il est en conversation avec son propre corps. Donc, c'est assez étonnant, cet endroit-là. Ça, c'est des objets qu'on a vraiment développés à deux. Tout le début, par exemple, pas du tout. Le début, c'est le début de la pièce où il fait grincer en fait ses pieds dans ses chaussures. C'est quelque chose qu'il a proposé tout de suite. Donc ça part d'un point de vue acoustique. Puis finalement, c'est amplifié, mais c'est très très fantomatique en fait, ces objets-là. C'est le départ en fait, c'est la façon dont il se chauffe, parce que c'est ce qu'il fait réellement. Ils font tous ça avant de danser. Ils se chauffent les pieds comme ça. Le gros travail, ça a été de comment faire dans ces collines sans lui mettre de la musique folk, quoi. ce qui est à un moment donné, il danse vraiment sur la musique folk, mais en gros, son microphone est réglé sur un dispositif électronique qui fait que si il tape pas du talon, il n'y a pas de son. Plus il danse vite, plus on a l'ensemble de la pièce. Donc il donne un coup de talon, on a juste un A. Et puis il en fait plus rapidement, on fait ba-ba-ba-ba. Donc, et puis on pourrait continuer encore, hein. C'est vraiment... ces périodes de travail, en fait, c'est toujours trop court d'une certaine manière, parce que les temps de recherche et d'interrogation sont vraiment sont complexes à chaque fois. Donc là, on est arrivé sur une forme qui fait 45 minutes, mais je pense que si on avait encore plusieurs résidences d'affilée pour pouvoir travailler, la pièce évoluerait vraiment, quoi.
Retrouvez Eric M avec le danseur Colin Dune lors de Revox NH pour la création de What is Hour au module du GMEM. Jeudi 13 décembre, 19h30 et 21h. Revox NH du 13 au 22 décembre à Marseille. Plus d'infos sur gmem.org.